Le duc et duchesse d'Orléans revinrent à Paris dans la seconde quinzaine d'octobre. La cour habitait alors le Louvre. Le jeune couple y eut son appartement, dont le courtisan ne fut pas long à prendre le chemin. À peine arrivée, madame avait déclaré sa grossesse. C'était un grand événement, en l'absence d'héritier direct de la couronne. La foule se précipita chez l'heureuse princesse qui allait mettre au monde un futur roi de France. Elle-même en avait la tête tournée, toute sage et modeste qu'elle fût. Elle faisait parade de ses espérances, croyant déjà avoir un fils, lequel dut tenir la place d'un dauphin. Chacun lui portait ses vœux et ses acclamations, et tout le monde allait à monsieur comme au soleil levant. Monsieur ne demandait qu'à se laisser faire et respirait cet encens avec félicité. Le mari et la femme jouissaient à l'envi de leur importance et promenaient des visages triomphants dans ce palais peuplé de soucis et de rongements d'esprit. Le Louvre étant en soi-même, politique à part, un séjour peu agréable. Au dehors, l'aspect était rude et sombre, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, où subsistaient encore des restes de la vieille forteresse de Philippe Auguste et de Charles V. Élégant et riant en face des Tuileries et du quai, où les Valois et Henri IV avaient commencé le nouveau Louvre, celui que nous connaissons. À l'intérieur, les mœurs du temps, mélange disparate d'extrême raffinement et d'extrême grossièreté, en faisait l'un des lieux du monde les plus bruyants et les plus malpropres. On entrait chez le roi de France comme dans un moulin. Une cohue tapageuse emplissait son palais du matin au soir et l'usage était de ne pas se gêner dans les lieux publics. Le flot montant et descendant des courtisans, des gens d'affaires, des soldats, des provinciaux, des fournisseurs et des domestiques considérait les escaliers, les balcons, les corridors, le derrière des portes, comme des endroits propices au soulagement de la nature. C'était une servitude immémoriale, qui existait aussi bien à Vincennes et à Fontainebleau, et qu'on n'abolit point sans peine. Il est encore parlé, dans un document postérieur à 1670, des 1000 ordures et des 1000 puanteurs insupportables, qui faisait du Louvre un foyer d'infection, très dangereux en temps d'épidémie. Les grands de la terre acceptaient ces choses comme des fatalités et se contentaient de faire donner un coup de balai. Ni Gaston, ni la princesse sa femme n'en étaient à cela près. Ils avaient l'habitude des châteaux royaux et devaient trouver, cette année-là, dans leur ivresse, que le Louvre sentait bon. Il ne leur convenait pas non plus de remarquer qu'on y était encore plus triste que d'ordinaire. Anne d'Autriche avait eu un crève-cœur de la grossesse de sa belle-sœur. Elle n'osait plus espérer d'enfant après 12 ans de mariage et sentait qu'elle s'enfonçait dans le néant. Ses ennemis commençaient à insinuer qu'elle n'avait plus de raison d'être et elle ne l'ignorait pas. La reine de France vivait dans un effacement si profond que le monde ne connaissait d'elle que sa beauté blanche et rose. On la savait malheureuse et on la plaignait. On ne la jugea que beaucoup plus tard, quand elle fut régente. De son côté, Louis XIII était amèrement jaloux de la future maternité de madame. Les mauvais sentiments lui étaient naturels et il était trop malheureux pour qu'on ne l'excuse pas en peu. Depuis l'arrivée de Richelieu au pouvoir, il succombait sous les exigences du devoir monarchique. Sa personne trahissait sa détresse intérieure. Elle exhalait la contrainte et l'ennui. Toute joie expirait au seul aspect de ce visage blême et démesurément long, si morne, si expressif, de la misère morale de ce prince qui se savait haï et ne s'aimait pas lui-même, s'étant jugé. Il était bègue, timide, et avait, comme son frère, les nerfs malades. le journal des Rouards, son médecin dans sa première jeunesse, le montre somnambule, dormant les yeux ouverts et alors se levant et parlant tout haut. Ses médecins l'achevaient en un an. Bouvard le fit saigner 47 fois, lui fit prendre 212 médecines et 215 lavements. Et encore, on reprochait à ce pauvre homme de ne pas être assez docile avec la faculté. Il avait très peu étudié, ne s'intéressait à aucune des choses de l'esprit et n'avait guère que des passe-temps manuels. Il aimait chasser, à jardiner, à cuisiner, à fabriquer des filets, des lacets, des arquebuses, des confitures, à larder de la viande et à faire la barbe. Il avait, comme son frère, un côté artiste, adorait la musique et en composait. C'était le seul sourire d'un naturel ingrat. Louis XIII était sec et dur. Il détestait sa femme, n'aimait au monde que ses jeunes favoris, cessait un beau jour de les aimer et ne s'inquiétait plus alors de leur vie ou de leur mort. Il allait voir mourir en partie de plaisir pour jouir des grimaces des agonisants. Sa dévotion très sincère était étroite et stérile. Il était jaloux et soupçonneux, oublieux et léger, incapable de s'appliquer avec suite aux grandes affaires. Il n'avait qu'une vertu, mais suffisante pour sauver sa mémoire. Au degré héroïque où il la porta, la même vertu qui a soulevé les Hohenzollern au fait de la puissance et de la gloire. Cette âme sombre était pénétrée du sentiment impérieux de son devoir de souverain, son devoir professionnel d'homme désigné par la Providence pour être responsable devant elle de millions d'autres hommes. Il ne séparait pas son propre bonheur de celui de la France, pas plus que sa propre gloire. Il ne séparait jamais, en rien, de son royaume. Il avait marié son frère de force, tout en sachant bien que la naissance d'un neveu l'ulcérait. Il gardait Richelieu avec désespoir et résolution, dans la pensée que le pays serait perdu sans son ministre. Il avait l'essentiel d'un roi, la qualité qui supplée beaucoup d'autres et sans laquelle les autres, les plus belles, demeurent inutiles. Autour de ces protagonistes bourdonnait une mêlée d'ambitions rivales et d'intrigues confuses, qui avaient cela de commun d'être toutes et toujours dirigées contre Richelieu. Le roi venant à manquer, le cardinal savait qu'il n'avait pas deux jours à vivre, et le roi paraissait à chaque instant à deux doigts de la mort. Michelet a écrit une page saisissante sur la souffrance du grand homme d'affaires, gaspillant son temps et usant ses forces à se débattre, contre je ne sais combien de pointes d'invisibles insectes dont il était piqué. La seule Marie de Médicis tenait avec le roi pour Richelieu, dans cet hiver critique de 1626-1627. Le cardinal était sa créature. Il y avait bien des souvenirs entre eux et de plus qu'un genre. Quelques années auparavant, Richelieu s'était donné la peine d'être amoureux de cette régente quadragénaire et avait eu tous les courages pour réussir à toucher son cœur. La cour de France l'avait vu prendre des leçons de lutte, parce que la reine-mère avait eu la fantaisie, à son âge et avec sa tournure, de se remettre à jouer du luth comme une petite fille. Marie de Médicis ne s'était pas montrée insensible et n'avait rien oublié, mais elle allait oublier le moment approché où Richelieu avait endossé inutilement le ridicule de soupirer en musique au pied de cette grosse femme. En apparence, pour un étranger, la cour de France n'avait jamais été plus gaie. Les fêtes s'y succédaient. Il y eut dans l'hiver deux grands ballets au Louvre, dansés par la fleur de la noblesse, le roi en tête. Louis XIII adorait ces exhibitions qui déroutent nos idées démocratiques sur la majesté royale. L'hiver précédent, il avait invité les bourgeois de Paris à venir à l'hôtel de ville contempler leur monarque. Avec sa face de croque-mort, dansant son grand pas sous un costume de carnaval. « Je veux, avait-il dit, honorer la ville de cette action. » Les bourgeois de Paris s'étaient rendus à l'invitation. Ils avaient attendu avec leurs femmes depuis 4 heures de l'après-midi jusqu'à 5 heures du matin que les entrechats royaux fissent leur apparition. La fête ne s'était terminée qu'après de midi. Monsieur prenait sa large part des plaisirs officiels et il avait aussi les siens dans son particulier, tantôt très enfantin, tantôt très intelligent et en avance sur les idées du temps, qui obligeait les gens du monde à abandonner les spéculations sérieuses aux beaux esprits de sa profession. Une ou deux fois la semaine, Gaston conviait un cénacle choisi de grands seigneurs et de gentilshommes à discuter des points de morale ou des questions de politique désignées à l'avance. Lui-même payé de sa personne, faisant admirer les ressources de son esprit et la sûreté de son jugement. Il devint, dans le même temps, noctambule, par impossibilité de demeurer longtemps en place. Il se déguisait et menait pendant la nuit la même vie de bohème que ce miséreux de Gérard de Nerval. Il rôdait comme lui, à pied dans les rues de Paris, qui étaient alors très obscures, très fangeuses, et très mal fréquentées après le coucher du soleil. Il racontait qu'on s'amusait à entrer dans les maisons et à s'inviter aux bals ou assemblées. On ne savait pas le reste, mais les gentilshommes, qui le suivaient pour le protéger, laissaient assez entendre que ce reste n'était rien de bon. Gaston d'Orléans avait tous les traits de ce que l'on appelle aujourd'hui les dégénérés, à commencer par le débraillé moral. Un jour que Louis XIII reprochait à la reine, en présence de Richelieu, d'avoir voulu empêcher monsieur de se marier pour se le réserver si elle devenait veuve, Anne d'Autriche s'écria qu'elle n'aurait pas assez gagné au change. La France non plus n'aurait pas gagné au change et il est fort heureux qu'elle ait gardé son triste souverain. L'enfant, tant désiré par les uns, tant jalousé par les autres, fit son entrée dans le monde le 29 mai 1627. Au lieu d'un dauphin, on eut une fille, la grande mademoiselle. Le 7e jour, la mère mourut. Louis XIII lui commanda des obsèques royales et vint lui jeter de l'eau bénite en cérémonie, tout soulagé de ne pas avoir de neveu. Anne d'Autriche assista incognito à la pompe funèbre, action qui fut interprétée diversement. Les gens sans malice y virent une preuve de la compassion que lui inspirait cette mort, en plein bonheur. Les autres, un signe qu'elle songeait vraiment à épouser son beau-frère si elle devenait veuve. La reine-mère fut sincèrement affligée. Elle avait une préférence avouée pour son second fils. Et l'essor du duc d'Orléans avait chatouillé agréablement son cœur. Richelieu eut des paroles de regret pour une princesse qui ne s'était jamais mêlée de politique. Et monsieur fut tel qu'on pouvait s'y attendre. Il pleura beaucoup, se consola vite et s'enfonça dans la débauche. La cour exécuta les volte-face exigées par les circonstances. Quelles que fussent les réflexions de chacun sur le parti à tirer de la catastrophe ou sur les regrets à en avoir, on tombait d'accord que la petite duchesse de Montpensier était fort chanceuse de rester seule héritière des biens de Madame sa mère. Celle-ci avait apporté en dot la souveraineté de Bombes, la principauté de La Roche-sur-Yon, les duchés de Montpensier, de Châtellerault et de Saint-Fargeau, avec plusieurs autres belles terres portant titre de marquisat, comté, à comté et baronnie, et quelques rentes constituée sur le roi et sur plusieurs particuliers, le tout faisant 330 000 livres de rente. L'enfant à qui revenait cette immense succession se trouvait la plus riche héritière de l'Europe, comme l'avait été sa mère avant elle. Mademoiselle fut élevée en conséquence dans le faste qui convenait à son rang et à sa fortune.